Les matins de France Culture.
Et on retrouve Thomas Cluzel pour la revue de presse internationale. Bonjour Thomas.
Bonjour Florian.
Et ce matin, beaucoup de bruit pour rien.
Oui, ce devait être un moment historique. Les premières élections municipales libres de Tunisie. L'occasion d'enraciner la démocratie dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Alors, hier, le scrutin a bien eu lieu. Il s'est même déroulé sans incident majeur. Sauf que le taux de participation, lui, n'a pas atteint les 34% au niveau national. Dans la capitale Tunis, là, l'abstention bat même tous les records. 74% des inscrits n'ont pas jugé utile de se déplacer pour aller voter. De sorte, écrit l'éditorialiste de Capitalist, que ce qui devait être l'année zéro de la Tunisie nouvelle s'est surtout transformé hier en zéro pointé pour ce qui n'était au fond qu'une énième caricature de démocratie. Et le journal de préciser encore que la forte abstention des électeurs n'est certainement pas due à un manque de civisme que certains seront sans doute bien prompts à évoquer à tort, mais bien davantage l'expression du refus des électeurs d'accepter l'actuel jeu de sous-démocratie dans lequel on veut les garder. 7 ans après la révolution, beaucoup de Tunisiens se disent en effet déçus en raison d'une situation économique difficile, avec en particulier un chômage persistant. Mais plus encore, hier, ils ont donc massivement rejeté les arrangements entre partis, au premier rang desquels l'alliance entre le parti présidentiel Nida Tounes et le parti islamiste Ennahda arrivait en tête.
Et puis au Liban aussi, les électeurs étaient appelés aux urnes hier pour un vote historique.
Oui, presque une décennie, c'est le temps qu'il aura fallu attendre, rappelle ce matin L'Orient Le Jour, pour qu'une nouvelle carte électorale se dessine enfin dans le pays du Cèdre. Là-bas aussi, comme le prévoyait la nouvelle loi électorale, un système de représentation proportionnelle avait été mis en place, de sorte que près de 800 000 nouveaux électeurs étaient cette année éligibles au vote. Et pourtant, la participation n'a même pas atteint les 50%. Quant à l'issue du scrutin, elle ne réserve aucune surprise, même s'il convient de rester prudent en attendant les résultats définitifs, écrit toujours le journal de Beyrouth. Deux partis semblent d'ores et déjà ressortir. D'un côté, le puissant Hezbollah, dont le bastion chiite reste presque intégralement intact. Et de l'autre, le parti chrétien des forces libanaises. Et c'est sans doute par cette impression nauséabonde de verrouillage total du système, mêlé à une loi électorale hybride qui a complètement désubstantialisé le discours politique de ces élections, qu'il convient aujourd'hui d'expliquer le faible taux de participation. Face aux promesses retentissantes, les électeurs sont restés dubitatifs, voire franchement méfiant, écrit encore l'éditorialiste, quant à la possibilité d'effectuer la moindre brèche dans la muraille actuelle de l'establishment politique. Et le quotidien d'en conclure ce matin, c'est probablement là le signe le plus grave et le plus endémique de l'absence de pratique et de débat démocratique dans notre pays.
Et l'absence de débat démocratique, précisément, c'est encore ce qui ressort de la campagne en vue des élections anticipées en Turquie cette fois.
Oui, tandis que le président Erdogan multiplie les discours retransmis en direct dans leur intégralité à la télévision, l'opposition, elle, dénonce des conditions de campagne inéquitables. Hier, le candidat du principal parti d'opposition a dénoncé le fait que son premier meeting, la veille, n'a été retransmis par aucune des principales chaînes de télé nationales, ce qui ne l'empêche pas de garder espoir. L'opposition n'a pas renoncé à la course, note le quotidien Hurriyet Daily News. Samedi, 4 partis ont en effet officiellement annoncé la formation d'une alliance électorale pour tenter de faire barrage au chef de l'État, sauf que cette alliance montre d'ores et déjà ses limites, regrette aussitôt le quotidien. D'une part parce que le parti pro-kurde HDP n'y figure pas, et d'autre part parce que cette coalition ne concernera que les législatives, 3 des 4 formations ayant décidé de présenter leur propre candidat pour le scrutin présidentiel.
Et puis eux avaient intitulé leur journée d'action « Il n'est pas notre tsar ». Eux, ce sont les partisans de l'opposant russe Alexei Navalny, lesquels ont défié ce week-end l'interdiction qui leur était faite de manifester.
Ils étaient des dizaines de milliers à occuper samedi les places centrales d'une 60aine de villes pour exprimer leur colère avant l'investiture ce lundi de Vladimir Poutine pour un 4e mandat. Sans surprise, remarque le correspondant du Temps à Moscou, la police a répondu par le plus vaste coup de filet de l'ère Poutine en arrêtant pas moins de 1600 manifestants dans l'ensemble du pays, dont Alexei Navalny, lequel devra comparaître le 11 mai prochain devant la justice pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Alors en apparence, Vladimir Poutine devrait pourtant se sentir en sécurité, fort des 76% de suffrages récoltés le 18 mars dernier, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Seulement voilà, la paix sociale reste fragile. Les Russes ont vu leur pouvoir d'achat diminuer constamment depuis 4 ans. 22 millions d'entre eux vivent désormais sous le seuil de pauvreté. A l'inverse, la Russie, l'un des pays les plus inégalitaires au monde, compte aujourd'hui 29 milliardaires de plus qu'en 2014. Dans le même temps, l'économie est entrée dans une phase de stagnation, faute de réformes, mais aussi à cause des sanctions internationales, de plus en plus douloureuses, notamment pour l'élite, accentuant ainsi le risque d'une scission en son sein. Enfin, à force de concentrer tous les pouvoirs, Vladimir Poutine finit inévitablement par endosser toutes les responsabilités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, se sachant marcher sur des œufs, il a opté ce lundi pour une cérémonie d'investiture sans excès qui tâchera tant bien que mal de faire oublier sa véritable nature, le couronnement du tsar.
Et puis enfin, direction l'Italie. À présent, 2 mois après les élections législatives, le pays attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est ainsi que le président de la République a convoqué ce lundi un 3e tour de consultation.
Et le jour de vérité, titre ce matin La Repubblica, un gouvernement de trêve. Voilà, semble-t-il, l'alternative esquissée par le président. Sauf que les conditions posées d'un côté par le mouvement 5 étoiles et de l'autre par la Ligue d'extrême droite rendent cette solution extrêmement fragile. De sorte, anticipe d'ores et déjà la Stampa que les consultations d'aujourd'hui démontreront une fois de plus que les partis se sont noyés dans un verre d'eau, d'où la conclusion non moins ironique ce matin l'éditorialiste du Corriere della Sera. Au fond, c'est une mauvaise chose, dit-il, que vous alliez aux urnes, car si un Premier ministre s'avère évidemment indispensable pour le bon fonctionnement de notre pays, ça n'est pas possible pour tout de suite.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On peut retrouver bien sûr votre revue de presse sur le site de France Culture.